Bonjour, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Jean-Michel Jacquemin-Raffestin pour son livre
Bonjour.
Événement. Le livre Événement, parce que je vais donner le titre du livre, les auditeurs vont tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font, et c'est préfacé par l'ancienne députée Martine Vonner. On parle évidemment de la vaccination. Vous avez travaillé en tant que journaliste sur les catastrophes sanitaires de Tchernobyl, de Fukushima. Vous êtes passionné par ce qu'on appelle les mensonges d'État. Qu'est-ce qui vous a, d'abord, ma première question, pensé, incité à travailler sur cette piste et à d'abord penser que, selon vous, il s'agirait, cette histoire de la vaccination, d'un mensonge d'État? Parce qu'un mensonge d'État, on pourrait penser que c'est de l'affolement, on est paniqué, les gouvernements ne savent pas quoi faire et ils se précipitent vers le premier remède qui arrive. Mais là, vous êtes allé beaucoup plus loin.
Alors, je suis allé beaucoup plus loin, mais les trois premières semaines, j'ai marché. J'ai marché, je l'explique d'ailleurs dans le livre, j'ai été très docile aux incantations gouvernementales, c'est-à-dire que je faisais mes courses en laissant les produits dehors sur la terrasse pendant une heure, etc., etc. Et puis, j'ai commencé à m'informer à l'étranger un petit peu, puis vous savez, je suis dans le milieu médical, puisque, comme vous l'avez dit, j'ai écrit des livres sur Tchernobyl, un livre sur Fukushima, donc je connais un petit peu quand même, et moi, il y a des choses qui ne correspondaient pas, parce que, bon, le confinement, je veux bien, mais tous les médecins savent que depuis la peste noire de 1664, il faut pas confiner. Voilà, donc là, ça a commencé à me poser des questions, et puis j'ai commencé à chercher, puis comme je dis dans chaque interview, quand on cherche, on trouve. Et c'est ce que j'ai trouvé par la suite sur des sites gouvernementaux, puisque tous les chiffres qui sont dans le livre proviennent du CDC américain, du VAERS, de l'ONS anglais, etc., du NIH bien sûr, et puis de DraVigilance, d'autres sites ensuite indiens ou israéliens, puisque Israël a été le pays type pour vacciner un maximum de personnes, puisqu'ils ont eu un contrat secret avec Pfizer, un contrat qu'ils ont perdu d'ailleurs, hein. Les députés ont récemment demandé le contrat et le gouvernement israélien ne retrouve pas le contrat avec Pfizer, il a disparu. C'est un peu comme les SMS de madame Ursula von der Leyen avec Pfizer. C'est drôle tout ce qu'avec Pfizer ça disparaît.
Ah, c'est un sujet qui est toujours très difficile d'aborder dans les médias, parce qu'il y a encore, on vous traite encore de conspirationniste. Comment expliquez-vous que malgré le livre choc, oui, la parole parfois se libère, mais il y a quand même une chape de plomb très forte?
Alors, il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser en interview. Déjà, la seule interview que j'ai pu avoir à La Réunion, parce que d'habitude j'ai des articles dans tous les médias de La Réunion, puisque je vis à La Réunion, là je suis censuré, boycotté de partout, mais TV Créole avait quand même fait une interview en osant aborder un certain chapitre que je n'abordais pas trop dans le livre, d'ailleurs je faisais que de l'effleurer. Dans le prochain je vais l'aborder parce que maintenant on a les chiffres, et bien ils ont été censurés par YouTube. Donc effectivement, il y a des mots qu'on a du mal à dire. Non, j'ai pas été traité spécialement de complotiste pour ce livre, puisque comme je vous l'ai dit, tous les chiffres proviennent d'organismes nationaux, donc des organismes d'État en plus.
Oui. Hein, alors comment expliquer cette chape de plomb, malgré tout cela? Justement, si ce sont des organismes d'État, tout journaliste qui ferait consciencieusement son travail devrait bondir et vous téléphoner.
Alors, chape de plomb en France,
hein. Oui.
En France, hein, parce que je prenais encore des renseignements à l'étranger pour le livre suivant. Je peux vous dire qu'aux États-Unis, en Angleterre, en Israël, en Australie, ça bouge beaucoup, il n'y a que chez nous. Mais bon, chez nous, c'est normal, ils ont été payés 3 milliards 800 millions. Hein. Donc, ce sont de bons collabos. Et ils font ce qu'on leur dit. Vous savez, quand un présentateur de journal TV de 20 heures est payé 40 000 euros par mois, bah écoutez, il lit son prompteur, faut se mettre à sa place. Hein. Il va pas risquer sa place en disant la vérité. Mais la vérité, elle existe. Hein. Les gens qui veulent la savoir, ils cherchent et ils la trouvent. C'est ce que je fais et je la dis, mais c'est pas un problème pour savoir la vérité, quand on la veut.
Justement, pensez-vous que maintenant, on a tous des témoignages autour de soi, des personnes qui ont subi cette vaccination, il y a des problèmes cardiaques, il y a les décès qui se multiplient. Comment ressentez-vous cela? Comment, voilà, est-ce que vous recevez de nombreux témoignages là-dessus, de plus en plus depuis la sortie
de vaccination? Je reçois de nombreux témoignages et justement là ce matin j'ai eu des documents qui prouvent que mon département où j'habite, La Réunion, c'est le département de France qui a le plus d'augmentation de décès. Il a 25% d'augmentation de décès pour l'année dernière, l'année 2022. J'ai la liste de tous les départements et c'est assez important quand même.
Alors la vraie question après, oui, mais après la vraie question.
Mais alors, vous parliez des décès, mais moi, ce qui me fait très, très mal et ce qui me met en colère, c'est ce sont tous ces jeunes de 14, 15, 17 ans qui se sont fait vacciner pour aller au McDo ou pour aller au cinéma et qu'aujourd'hui tombent, font des arrêts cardiaques et meurent en jouant au foot. Et ça, il y en a plein, je viens encore d'en recevoir, là, justement, partout, ici où on en a, bien sûr, deux qui sont tombés. J'ai, dans une ville très proche, à Saint-Pierre, il y a un entraîneur de foot qui a dit j'arrête l'entraînement de foot, j'en ai deux qui sont tombés, j'en aurais pas trois. Et là, j'en ai reçu encore d'autres tout à l'heure, donc ça, c'est vraiment catastrophique.
Et parfois, les gens sont dans le déni du lien.
Ah, bah, complètement. Complètement. Si vous avez ouvert mon livre, vous avez vu que la première, elle est dédiée à certaines personnes. Je me suis pas trompé d'ailleurs. Mais ensuite, vous avez une petite fable avec l'herbe bleue et c'est tout à fait ça. C'est pas la peine de discuter. Je pense qu'on a 30% de la population pour laquelle l'herbe est bleue. Donc c'est pas la peine d'insister. C'est pas la peine de perdre son temps. Voilà. Et si vous avez vu la première page, donc je vais la redire pour les gens. J'ai dédié ce livre à Pascal Praud, à Cyril Hanouna et leurs confrères qui jamais ne m'inviteront sur leur plateau parce que, comme disait Coluche, on ne peut pas dire la vérité à la télévision, il y a trop de gens qui regardent. Et je vois que j'ai eu bien raison. Je vois que j'ai eu bien raison parce qu'il n'y en a aucun qui m'a invité.
Alors, moi c'est amusant parce que nous, votre livre, évidemment, je l'ai reçu, c'est l'un de ceux qu'on m'a le plus piqué, hein. Quand j'ai traîné sur mon bureau, il a disparu, il est revenu, les gens sont très très intrigués, comme s'ils découvraient quelque chose. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont finalement une mono-information, qui n'ont pas pris le temps ces derniers mois de se renseigner, pour qui tout ce qui était mis en cause de la vaccination obligatoire, c'était adhérer au complotisme ou à l'extrême droite, donc les gens ont eu peur finalement d'aller chercher
ça. Ça va plus loin. Vous savez, j'ai mis mon adresse courriel dans le livre pour que les gens puissent me contacter. Moi, j'ai des gens qui m'ont contacté parce qu'en lisant le livre, ils ont découvert que c'était expérimental. Ils ne savaient pas que c'était un produit expérimental, en expérimentation, qui n'avait qu'une autorisation momentanée.
Ce qu'il y a toujours...
Les gens ne savaient pas.
Oui, parce que on entendait Olivier Véran, par exemple, à l'époque ministre de la Santé, dire « mais non, c'est pas expérimental », avec la même réponse. Comment voulez-vous que ça soit expérimental si des centaines de millions de gens se font vacciner ? Voilà.
Celui-là, justement, hein, franchement, puisque notre président avait dit qu'on était en guerre, ça m'a rappelé quelqu'un lors d'une dernière guerre qui faisait des expériences sur les gens. Parce que vous voyez, Monsieur Véran, il a quand même dit plusieurs fois qu'il n'y avait aucun risque pour les femmes enceintes, que les femmes enceintes pouvaient prendre cette injection. Or, la dernière étude du VAERS, je rappelle, c'est le site américain qui enregistre les problèmes, il y a une augmentation de 4072% sur les avortements ou les naissances mort-nées de femmes qui sont enceintes, voyez-vous. Alors, c'est curieux, si vous achetez un reblochon et que vous le retournez, vous allez voir, il y a une étiquette fromage au lait de vache cru déconseillé aux femmes enceintes. Mais là, par contre, un vaccin expérimental, il n'y a pas de problème. Ils l'ont infligé aux femmes enceintes. Et on voit le résultat aujourd'hui avec des jeunes filles de 24 ans qui sont ménopausées, qui ne pourront plus avoir d'enfants. Enfin, l'information, elle existe. Il y a des études maintenant partout qui sortent. En Angleterre, en Australie, c'est terrible ce qui se passe. Et en plus, vous avez plein de jeunes qui se sont fait vacciner et qui vont être stériles.
Vous soulignez aussi que les sociétés d'assurance avaient été prendre ces rapports officiels, c'est sourcé, hein, évidemment,
oui.
Je n'ai pas écrit n'importe comment. On fait état d'une augmentation de 40 à 45% des décès chez les 18-64 ans. Puis avait été dit
aux États-Unis, c'est les assurances. Précisons, ce sont les assurances américaines, parce qu'en France, tout va bien. Il n'y a pas de problème en France.
Bah, c'était la question que j'allais vous poser. Il n'y a pas de raison. Voilà. Pourquoi les assurances en France ont-elles mis un chapeau là-dessus ? Une certaine époque, on avait dit, si vous êtes vacciné, vous ne serez pas remboursé, faites attention, il y a des clauses. Puis finalement, toutes les compagnies d'assurance sont rentrées dans le rang. Vous l'avez bien entendu aussi. Vous l'avez...
Bah oui, mais regardez les organigrammes de compagnies d'assurance et qui les dirige, à qui elles appartiennent. Et puis vous avez la réponse. Hein. Vous savez, c'est comme tous les médias. Si vous regardez les cinq groupes de médias, qui tiennent les médias français, bah vous avez la réponse, hein, c'est tous des potes au gouvernement, que ce soit un gouvernement de droite ou un gouvernement de gauche, d'ailleurs, peu importe, ils sont tous liés, ils ont leurs intérêts, ça passe avant le bien du peuple.
Vous n'êtes pas psychiatre, hein, vous êtes journaliste, Jean-Michel. Je voulais quand même poser cette question. L'esprit français, s'il apprend qu'il a été trompé, qu'on lui a vendu de fausses choses et des choses dangereuses, l'esprit français aurait été que les gens descendent dans la rue avec des fourches. C'est l'image qu'on aurait pu se faire de la France.
Oui, non, mais ça, 1789, c'est fini. C'est fini, ça, aujourd'hui. D'abord parce qu'à l'époque, il y avait un peuple français. Aujourd'hui, vous avez des peuples français. Voilà, j'entendais encore les informations à midi, ils sont plus les uns à côté des autres, ils sont les uns en face des autres, prêts à se taper dessus. Donc, il n'y a plus d'unité. Puis, quand vous voyez la chienlit à l'Assemblée nationale actuellement, vraiment, c'est catastrophique. Je veux dire, si les gens se renseignaient, ils sauraient qu'il y a déjà il y a 3 milliards de plus dans les caisses, qu'il y a de l'argent dans les caisses et que c'est pas pour maintenant... qu'il y a de l'argent qui va manquer, qu'on a largement le temps. Et puis, vous savez, quand on donne des milliards et des milliards à l'Ukraine, je pense qu'on peut aussi avoir de l'argent pour les Français. Donc, non, les gens bougent pas. Je crois que tant qu'ils ont des jeux et du pain, c'est bon, ça marche. Alors, le soir, ils ont Hanouna. Ensuite, ils ont de quoi manger dans leur assiette. Ils sont pas prêts de bouger. Mais ça va venir, je pense. Vous savez, Marthe Robin avait fait une prédiction en disant que la France tomberait très bas. Ce serait le pays d'Europe qui tombait très bas. Ben, je crois qu'on est dans la chute, mais on n'a pas encore trouvé le fond. Là.
Alors, le livre s'appelle « Ne leur pardonnez pas ». Ils savent très bien ce qu'ils font. Ce qui est intriguant aussi, c'est le « Ils savent très bien ce qu'ils font ».
Et alors, je vais vous dire, je suis en train d'écrire la suite qui aura le même titre. Je rajoute juste « Et depuis très longtemps ». Et ça, ce sera pour le prochain. Bien sûr qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Quand vous avez un Bill Gates qui, il y a 13 ans, vous dit avec un bon vaccin, on pourrait réduire la population du monde de 10 à 15%, bien sûr qu'ils savent ce qu'ils font. Vous avez lu dans le livre ce que j'ai dit de Bill Gates sur sa famille, sur son père, sur son grand-père. C'est une famille d'eugénisme. Et de l'autre côté, en Europe, vous avez le Klaus Schwab qui vient d'une famille nazie. Son père était un employé un fournisseur d'Hitler, je veux dire. Donc, ils savent très très bien ce qu'ils font. Très bien ce qu'ils font. Et quand vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, puisque là on a des chiffres, quand vous voyez l'armée américaine, et là je vais en reparler dans le prochain livre, parce qu'on a des chiffres qui sont totalement affolants chez les pilotes, chez les décès des pilotes. C'est curieux d'ailleurs que l'armée de l'air américaine puisse parler du décès de ses pilotes après les injections, alors qu'en France, tout va bien. Nos pilotes, il n'y a pas de problème chez les pilotes français. Puisque je parle des pilotes, je rappelle que lors du forum de Davos là, qui vient d'avoir lieu récemment, je ne sais pas si vous avez entendu, mais tous ces gens qui viennent nous dire qu'il faut qu'on fasse attention à notre gaz carbonique, là, notre empreinte carbone, qui
sont venus avec
leur
avion, en demandant, paraît-il,
mais en demandant des pilotes non vaccinés. Et
bon,
oui, donc
c'est toujours difficile de dire ça
parce
qu'ils
savent très bien ce qu'ils font. Vous voyez bien qu'ils savent très bien ce qu'ils font.
On n'a pas les preuves, hein. Là-dessus aussi, on ne peut pas aller tout vérifier aussi, hein, Jean-Michel.
Mais non.
Alors, ils savent très bien ce qu'ils font, ne leur pardonnez pas. Mais alors moi, comment expliquer alors finalement ? Parce que s'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, il y aurait la police, la gendarmerie ou les militaires auraient été mis à part. Parce que finalement, ce sont eux aussi qui protègent le pouvoir. Et on voit maintenant les problèmes qui se posent. Il y a des témoignages qui sortent chez certains policiers, chez des gendarmes, suite à la vaccination, disent-ils. Je suis prudent, donc je dis disent-ils. Mais si le pouvoir savait très bien ce qu'il faisait, il aurait mis de côté cette population.
Je crois qu'au début, il en a mis de côté, quand même un petit peu. Mais effectivement, ce que je comprends pas, c'est ces gens-là, ils ont aussi des familles, ils ont aussi des enfants, ils ont des femmes, des parents, des frères, des sœurs. Donc je comprends pas qu'ils ne bougent pas, qu'ils aient accepté tout ça. Sincèrement, je comprends pas. Vous avez reparlé du titre du livre. Je voudrais préciser quand même que ce titre vient de Claire Sévrac, à qui j'ai rendu hommage dans le livre, qui elle avait écrit « Ne leur pardonnez pas, ils savent ce qu'ils font ». Voilà. Et donc ce livre est en hommage à Claire. Il est en hommage également à mon amie Sylvie Simon, qui était la, comme certains l'appelaient, la papesse des antivax. Qui a écrit de nombreux livres sur les vaccins et sur les dangers des vaccins, parce que les vaccins que nous avons depuis une vingtaine, une trentaine d'années, c'est pas les vaccins qu'on avait il y a 60 ans. À l'époque, il n'y avait pas toutes les saloperies qu'il y a aujourd'hui dedans. Et c'était aussi un hommage à celui qui nous a quitté l'année dernière, le professeur Luc Montagné. Voilà.
Je voulais
préciser ça pour le titre du livre.
J'allais justement citer son nom quand le professeur Luc Montagné avait dit que c'était que sans doute les non-vaccinés sauveraient le monde. Il avait laissé entendre.
Ce serait l'avenir, serait l'avenir de l'humanité. Cet homme avait tout vu dès le début, dès le printemps 2020. Il avait tout expliqué. Et ensuite, quand le vaccin est arrivé, il a expliqué ce que le vaccin allait faire. Les dégâts que ça allait causer, je rappelle qu'il avait quand même expliqué que ce virus avait été fait en laboratoire parce qu'il avait trouvé des morceaux, quand ils avaient analysé, ils avaient trouvé des morceaux du VIH, et il a été traité, on l'a traité de vieux gâteux et tout, mais c'est absolument inadmissible la façon dont les médias ont traité le professeur Montagné, le professeur Raoult, le professeur Perron. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui ont un CV long comme le bras. J'ai d'ailleurs mis les CV en annexe du livre. Mais quand vous voyez un infectiologue comme le professeur Raoult, qui est connu mondialement, comment il a pu être traité, je revois encore cette émission de télé sur CNews, chez Pascal Pro, avec quelqu'un qui se dit philosophe, Monsieur Enthoven, qui dit qu'il se fout des diplômes de Raoult et que son hydroxychloroquine, ça vaut pas mieux qu'une pastille Valda, alors que lui, on voit que c'est pas une pastille Valda qui s'est mis dans le nez. Alors, je peux vous assurer que le mec, là, il est chargé quand il est devant la télé. Ça tombe bien, puisqu'en ce moment, on parle de cocaïne, d'ailleurs, avec l'affaire Palmade. Je crois qu'on devrait faire passer des tests aussi aux gens avant de passer en interview à la télévision.
Il y aurait plus grand monde. Les plateaux seraient vides.
C'est possible. Il y en a un autre aussi qui, il y a quelques années, se vantait que c'était l'extase quand une petite fille de 5 ans venait lui ouvrir la braguette, là, le fameux Cohn-Bendit, et qui a osé dire qu'il ferme sa gueule, Raoult. Mais sincèrement, mais comment on peut donner la parole à ces gens-là, ils n'ont aucune notion scientifique, rien du tout, je veux dire l'autre là qui se prend pour un philosophe, mais ceux qui le prennent pour un philosophe, l'Entoved dans tous les cas, c'est les mêmes qui prennent Bill Gates pour un philanthrope et puis Patrick Cohen pour un journaliste.
Alors je voudrais finir là-dessus sur ce plan détaillé, beaucoup d'auditeurs savent, il suffit de se renseigner un peu. À la fin, soyez adultes, ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Est-ce que ce plan finalement n'a pas été un échec en raison de la contestation qui a été finalement beaucoup plus importante que peut-être les élites l'auraient imaginé? Et que même maintenant, à travers le travail que vous faites, même les interventions, ça commence à circuler. Hein, voilà. C'est tombé un peu à l'eau, tout ce qu'il voulait faire.
Je ne suis pas d'accord. Je pense que ce n'est pas encore tombé à l'eau. C'est pas encore tombé à l'eau. Je pense que ça va tomber à l'eau, mais ils ont encore quelques mois devant eux, je pense. Enfin, c'est mon avis, parce qu'en France, tout du moins, c'est vrai que dans les autres pays, les journaux sont moins collabos. Je vois même aux États-Unis où des chaînes de télévision commencent maintenant à attaquer Biden et son fils sur ce qu'ils ont fait en Ukraine et tout. Donc, on sent que ça bouge un petit peu partout. Mais en France, non, ça, ils sont bien dociles, le petit doigt sur la braguette du pantalon, ils sont aux ordres. Donc, on n'est pas prêt d'avoir la vérité en France quand on voit toutes les censures qu'il peut y avoir, quand on voit il y a 15 jours, Alexandra Orion-Code, que j'appelle notre Jeanne d'Arc dans le livre, a annoncé qu'elle allait sortir son livre là, qui sort le 8 mars chez Albin Michel. Tout de suite, elle a pris une volée de bois vert, ils l'ont insulté, tout. Enfin, c'est vraiment. Et en plus, tous ces journalistes qui écrivent ne sont absolument pas scientifiques. Ils n'ont jamais mis les pieds dans un laboratoire. Ils n'ont pas fait une étude de médecine, quoi. C'est comme ceux qui nous parlent du réchauffement climatique. Ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent, mais il faut faire peur au monde, quoi. Ils en rajoutent. Je vous en parle parce que je viens de terminer un livre de Stephen Colon qui est le titre s'appelle « Le climat, la part d'incertitude ». Bon, c'est pas n'importe qui, ce gars, puisque c'est celui qui était à l'époque de Obama. Hein.
Mais l'ancien conseiller écologique de Barack Obama.
Voilà.
Ouais.
Voilà. Et voilà. Et il explique vraiment que il y a aucune certitude sur ce que l'on annonce, quoi. Parce
il dit
que
clairement
que si
toutes les hypothèses qui sont prises sont les plus négatives qui sont affichées.
Voilà. Et il dit en plus, quand il y a quelque chose de bien dans un rapport du GIEC, la conclusion, elle est fausse. La conclusion est à l'opposé de ce qu'il y a dans le rapport.
Il faut bien comprendre que dans l'univers de la statistique, je vais le préciser aux auditeurs, si vous dites un enfant de 8 ans va traverser l'avenue des Champs-Élysées, il y a évidemment une probabilité que cet enfant de 8 ans soit écrasé par une voiture. Mais la probabilité, elle est de 0,001. Il peut toujours y avoir un fou qui passe à ce moment-là. Or là, les rapports du GIEC, c'est ce qu'explique le conseiller de Barack Obama, est écrit en prenant la probabilité la plus négative qui est affichée en gras vis-à-vis des politiques. Voilà. Donc, le résultat, c'est un enfant de 8 ans peut se faire écraser en traversant les Champs-Élysées. Donc, le politique, lui, dit voilà. « Je vais interdire la traversée des Champs-Élysées aux enfants de 8 ans ». Et c'est de la manière...
Voilà.
J'ai
alors...
résumé la façon dont il explique les choses. Hein. On prend l'hypothèse...
Son livre est vraiment excellent et il a mis plein de sources, lui aussi, parce qu'il a fait comme moi ou j'ai fait comme lui, peu importe. On met beaucoup de sources pour donner envie aux gens. On n'est pas là pour convaincre les gens, on est là pour leur donner l'envie de chercher par eux-mêmes. Mais bon, je veux dire, en 1192, on traversait la Garonne à pied. Oui. Il faisait cuire les œufs sur les rochers. Il n'y avait pas les voitures, il n'y avait pas le gasoil, il n'y avait pas tout ça. Si les gens cherchent, ils vont trouver les écrits de ce qui se passe. Mais par contre, en faisant peur aux gens, parce qu'il le dit, c'est carrément ça, hein, c'est faire peur aux gens. D'ailleurs, il y a des citations dans son livre. Eh bien, vous achetez un ordinateur, vous payez une taxe. Vous achetez un téléphone portable, vous payez une taxe. Vous achetez un réfrigérateur, une machine à laver, une machine à sèche-linge et une voiture, bien sûr. Vous payez une taxe carbone. Et voilà. Et comme ça, on prend de l'argent aux gens.
Merci encore pour votre un travail passionnant, qui crée l'événement. On ose en parler, vous voyez, dans les médias, sur la pointe des pieds. On sait qu'il y a les scuds qui vont tomber, mais c'est comme ça, mais c'est la vérité. Et c'est important de la dire, cette vérité. Vous êtes Jean-Michel Jacquemin Raffestin. Jean-Michel, vous avez travaillé toute votre vie sur les grands mensonges d'État, les catastrophes sanitaires, Tchernobyl et Fukushima. Cette fois-ci, c'est le vaccin. À travers ce livre qui est publié aux éditions Nouvelle Terre, ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Et bien entendu, nous on va mettre sur le site internet pour les auditeurs qui nous écoutent peut-être dans leur voiture.
Eh bien, je vous remercie beaucoup.
Mettre la couverture et toutes les données du livre. Merci.